Bonjour, c'est Rémi Dabord au micro de RCN 90.7, le son de la différence. Soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission qui veut remettre au goût du jour les pièces radiophoniques. Ces petites parcelles de nostalgie qui ont bercé l'enfance des baby-boomers avant que la télévision n'entre dans tous les foyers, quand la radio s'appelait TSF et qu'on écoutait religieusement les maîtres du mystère, la famille du raton, ou ça va bouillir avec Zach Bimax, qui est toujours vivant, je l'ai aperçu dimanche au livre sur la place. Pour ce premier opus, j'ai mis à contribution un certain nombre d'animateurs de RCN, dont vous reconnaîtrez sûrement les voix. Ils sont tous là, Ariel, Christine, Yves, Charles, devant leur micro. Maintenant que le décor est planté, il est temps de frapper les trois coups et de lever le rideau. Aujourd'hui, les cousins.
C'est un café banal, comme il en existe au moins un dans la plupart des 36 000 communes de l'Hexagone. Il se nomme Café de la Gare, Café de la Poste, Bar du Centre, Café du Commerce, Bar des Amis ou plus amicalement, Chez Dudule. Celui-ci s'appelle le Saint-Joseph, sans doute pas en l'honneur du Saint-Patron des Charpentiers et des Cocus, mais plutôt parce qu'il est situé dans la rue éponyme. Sur l'avant, un comptoir surchargé de bonbons, babioles et impôts à gratter s'ouvre sur le rayon des cigarettes. Contre la vitrine de droite, un présentoir supporte journaux, revues et autres périodiques. Sur le côté, un tourniquet offre un choix pléthorique de cartes en tout genre. Ensuite vient le bar de chêne ciré au court comptoir de zinc, poli par les manches des clients et les coups de chiffon humides du patron. Derrière se trouve la salle, sombre, intime. Des petits box à 4 ou 6 places, séparés par un dosseret de bois ajouré, avec des sièges de moleskine noire, où les ressorts sont devenus plus nombreux que le rembourrage, de part et d'autre, de solides plateaux de bois massifs juchés sur des pieds métalliques. Tout au fond, dans une travée permettant de distinguer l'entrée, un homme est assis devant un ballon de rouge à peine entamé. Mais deux cercles rosâtres trahissent la récidive. Il est petit, tassé, gras, la soixantaine cruelle et bedonnante, une calvitie monacale transpercée de quelques survivants et une couronne de cheveux brun gris mal taillés. Son visage est glabre, sa peau d'une blancheur maladive. Un double menton en voie d'achèvement, un triple en devenir, la bouche molle, les yeux atones enfoncés au cœur de cernes épais. Il est vêtu d'un complet marron hors d'âge, dont la veste gît roulée en boule à ses côtés, et d'une chemise à carreaux sans cravate. L'allure générale rappelle un peu Bernard Blier, un Bernard Blier vieillissant, qui aurait pris les allures de Michel Simon. Coïncidence, il s'appelle Bernard.
Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vous souhaite le bonjour.
Bernard relève le menton et se tourne vers le bar. Un début de sourire illumine son visage. Il lève la main pour attirer le regard du nouveau venu. L'arrivant porte beau. Silhouette déliée, complet veston de lin clair, visage altier, yeux clairs et pétillants, cheveux noirs fraîchement coupés et impeccablement coiffés, avec juste ce qu'il faut de fil gris pour leur donner l'illusion de la vérité. Fine moustache surlignant son sourire aux dents trop parfaitement alignées. La brûlante soixantaine, la voix haute et profonde, faite pour déclamer des tirades tragiques ou des odes enflammées. Un vibrant double de Jean Rochefort. Et devinez quoi ? Il s'appelle Jean.
Hey, par ici, Jeannot.
Jean franchit les quelques mètres qui le séparent de la table et se glisse élégamment sur la banquette en face de Bernard. Il grimace un peu.
Ah, c'est rembourré de noyaux de pêche. Comment vas-tu, cher cousin ?
Tu as trouvé facilement. Qu'est-ce que tu bois ?
Arlette !
La serveuse approche, son plateau pendant au bout de son bras maigre. C'est une fille tout en longueur. Son chemisier est boutonné jusqu'en haut sur des rondeurs à peine esquissées. Sa taille fine surmonte des hanches d'adolescente mal nourrie. Le tout est porté par un bon mètre de longues jambes fuselées de top modèle. Sa robe est si courte qu'on pourrait imaginer qu'elle est nue derrière son petit tablier de dentelle. Elle s'appelle vraiment Arlette. Et on se plaît à l'imaginer en robe écossaise et bas couture noire, le bibi perché sur l'oreille, à mi-chemin de l'écluse sur le canal de l'Ourcq, souhaitant « bonne pêche et bonne atmosphère » à son homme en retournant vers l'hôtel du Nord.
« Voilà, j'arrive. Bonjour messieurs, qu'est-ce que ce sera ?»
Les hommes gardent les yeux à hauteur de la table, ce qui agace la jeune fille.
« Oh ben dites donc, vous avez jamais vu des gambettes les mecs là ? Elles sont cul de jatte vos bonnes femmes ?»
Un petit Julienas comme d'habitude Arlette.
Nine-eleven.
Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Mais vous pouvez pas demander un truc normal ou un truc comme tout le monde, quoi !
Pour votre culture, jeune fille, sachez qu'un Manhattan est un tiers de martini, deux tiers de whisky et un trait d'angustura. Le Nine-eleven, c'est un Manhattan bouleversé, c'est-à-dire deux tiers de martini et un tiers de whisky, avec deux traits d'angustura.
D'angou quoi ?
Bon, laissez, vous mettrez un jus de citron, ça fera l'affaire.
Ouais, bien, monseigneur.
Dans un grand verre.
La serveuse s'éloigne. Les hommes peuvent détailler le côté pile de leur fantasme et admirer le discret balancement des rondeurs enfantines. La fille agite sa main libre sans se retourner.
Jeannot, je suis dans la merde.
Premièrement, ne m'appelle pas Jeannot, j'ai plus de 10 ans. Deuxièmement, tu es toujours dans la merde. Depuis ton berceau, tu t'y trouves et t'y mourras, c'est sûr.
Bon, t'exagères.
J'exagère. Qui a plumé le cul des poules, coupé les oreilles des lapins chez la grand-mère Antoine ?
Ouais, une oreille seulement, et puis c'était un accident, et puis j'avais 5 ans. Ouais.
Qui a saccagé l'église avec les réserves de confiture et de sauce tomate de la tante Jeanne ?
Oh, bah là, j'avais 6 ans.
Non, 12. C'était le jour de ta communion.
Ah oui, c'est vrai.
Oh. Ouais, qui a volé la Jeep du capitaine et l'envoyé dans les temps de la Dôle ?
Oh, bah là, Jeannot, j'étais pas tout seul, hein.
Bah, c'est toi qui a démarré, qui conduisait, qui engrossait les jumelles de la crémière.
Eh ben là non plus, j'étais pas tout seul.
Ouais, c'est vrai, vous étiez trois, et il y en avait deux qui étaient gravement mineurs.
Arlette revient vers eux, portant bien haut son plateau. Ils se taisent pour admirer une nouvelle fois sa silhouette de gamine montée en graines. Elle pose les consommations sur la table et attribue d'office le ticket à Bernard.
Bon, alors, comme il n'y avait plus de citron, j'ai mis du sirop. Bah, et pour les glaçons, je ne savais pas, alors je les ai mis à part, monseigneur.
Merci, mademoiselle. Je vais savourer votre version très personnelle du Nine-eleven. Qui sait, ce sera peut-être un succès.
La serveuse sourit et retourne vers le bar, sous les yeux avides des deux cousins.
Bon, c'est quoi ta dernière bêtise ?
J'ai des angoisses.
Ah, tout le monde a des angoisses. D'où vient-on ? Où va-t-on ? Que fait Dieu ?
Te moque pas, je suis vraiment dans la merde.
Finalement, elle a un petit don, cette gamine. Bon, alors, raconte.
Bernard croise ses mains sur la table, les décroise, les fourre dans ses poches, pour se décider enfin à les poser, bien à plat, de part et d'autre de son verre vide.
Ah, j'ai une amie.
Jeune ?
Ouais, elle est encore en études.
Ah ben, mon cochon.
Bah, c'est pas ce que tu crois. Je l'aide parce qu'elle est provisoirement dans une mauvaise passe.
Ah, forcément. Une frêle jeune fille, en détresse. T'as pas pu résister ?
Ah vraiment, tu me prends pour qui ? C'est pas du tout son genre, ni le mien.
C'est pathétique. Enfin, si tu payes sans ramasser la monnaie, t'es vraiment...
Franchement, Jeannot, tu m'as vu. Tu m'imagines avec une jeunette.
Ah ouais, t'as raison. Bref, tu l'aides en attendant qu'elle trouve un copain riche ?
Oh, t'es méchant, cousin. T'as pas changé depuis Saint-Ferré. Toujours à te moquer, à te croire plus fort, à donner des leçons, à montrer ta force, à prouver ton intelligence, à faire étage de ta culture.
Calme-toi, cousin, ce que j'en disais...
Tu sais, Jeannot, finalement, j'ai jamais pu t'encadrer. T'as pourri ma vie. À chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je me suis toujours dit que ça ne serait pas assez bien, pas à la hauteur du cousin Jeannot. Alors, à chaque fois, j'ai reculé. Et... Oh. T'exagères. Tu as vu ce que je suis devenu. Une loque. Une pauvre loque. Et là encore, tu veux m'a cacher ma belle histoire avec Elodie.
Elle s'appelle Elodie ? C'est un joli nom. Ça fait virginal. Allez, j'arrête de te charrier, raconte-moi l'histoire.
Bernard essuie son visage avec un grand mouchoir blanc strié de fines rayures mauves. Il brandit son verre en direction du bar.
Arlette, Arlette, la même chose dans un grand verre.
Le silence se fait en attendant la livraison. La jeune fille dépose un verre à eau rempli à ras-bord d'un vin épais et gratifie Jean de son plus beau sourire.
Bravo mademoiselle, ce truc est délicieux, enfin surprenant, mais délicieux.
Ah, j'ai fait de mon mieux monsieur, vous savez ici, on n'est pas habitué à recevoir des gens de la haute.
Vous êtes absolument charmante mademoiselle, si charmante et si rafraîchissante.
La jeune fille retourne derrière son bar en rétrécissant ses pas et en exagérant son déhanchement. Ces messieurs apprécient.
Bon, finissons-en. Alors, je suis pas venu dans cet estaminet de...
Il regarde autour de lui, les céramiques du sol ébréchées, les plafonds jaunis par des légions de fumeurs, les tentures murales tachées, les banquettes affaissées.
Dans ce boui-boui de troisième zone, juste pour admirer une paire de cuisses.
Je suis dans la merde.
Tu l'as déjà dit.
Oh, ouais, voilà, j'ai trouvé un petit studio pour Elodie. Pas très loin d'ici. Dans un vieil immeuble au quatrième étage. Oh, rien de très fabuleux. 12 mètres carrés, bien aménagé, bien éclairé, avec une douche et une kitchenette.
Oh, abrège, je veux pas louer ton pied-à-terre.
Ouais, bah j'y viens. C'est juste pour te décrire l'atmosphère, le contexte, quoi. Bref, ma mignonne, elle a fait son petit nid douillet avec ses petites affaires et puis son petit bureau, son petit ordinateur, ses petites peluches, tu vois.
Je te préviens, si tu me sers pas du concret dans 2 minutes, je m'en vais.
Non, mais j'y viens. Donc je passe 1 ou 2 fois par semaine chez Elodie pour voir si tout va bien, si elle n'a besoin de rien.
Ah, si elle n'est pas trop fatiguée, si elle n'est pas avec un mec.
Oh là, c'est toi qui m'interromps, hein. Hier soir, je suis passé, j'ai sonné, personne, alors j'ai ouvert.
T'as une clé ?
Ben oui, je paye le loyer.
Et tu entres comme ça, dans le nid douillet d'une jeune fille, au milieu de ses petites affaires, pour caresser ses petites peluches, pour fouiller dans son petit ordinateur, sur son petit bureau, pour consulter ses petits mails.
Oh, tu vois, tu recommences à vouloir tout salir. Jamais je n'oserais fouiller dans le sac d'une dame, dans son ordinateur. Ah, c'est bien des idées de flic, ça.
Je suis sûr que ça va bien t'arranger que j'ai été flic dans quelques instants.
Bah, c'est bien possible. Donc je suis entré. Ah, tu sais, c'est pas grand un studio, t'en as vite fait le tour. Alors, l'eau coulait dans le cabinet de toilette, alors j'ai crié « Elodie, je suis là !» Histoire qu'elle ne sorte pas toute nue.
Ah, ben voyons.
Bon, je me suis assis au bord du lit. La petite télé était allumée. Alors sur une chaîne documentaire, là, il y avait des lionnes qui guettaient un troupeau de zèbres. À la fin du stratagème, le stratagème a raté et les lionnes sont rentrées bredouilles, mais ça a duré un sacré bout de temps, l'eau coulait toujours. J'ai trouvé que c'était un peu long.
Pourquoi ? Tu payes aussi la flotte ?
Ouais, au bout d'un moment, je suis retourné toquer à la porte pour l'appeler. Pas de réponse. Alors j'ai frappé un peu plus fort. Rien. Alors j'ai entrouvert la porte.
Et c'est là que t'es content d'avoir un cousin ancien commissaire, même si t'as jamais pu l'encadrer.
Elle était affalée dans la douche, la tête dans la vasque. Elle n'était même pas déshabillée, il y avait du sang partout. Sur les carrelages, sur elle, sur sa robe, dans ses cheveux. Jeannot, tu crois que je suis dans la merde ?
Ça, cousin, tu peux le dire. Une merde bien noire et bien odorante. T'as touché au corps ?
Je sais plus... Peut-être que j'ai voulu voir si elle respirait encore. Peut-être que j'ai voulu faire du bouche à bouche, de la respiration artificielle. Peut-être que j'ai rien fait. Je sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais plus.
Un long silence s'éternise, perturbé par le ronronnement des ventilateurs en faux bois, made in China. Brassant inutilement un air lourd et poisseux.
Qu'est-ce que t'as fait ensuite ? Tu as refermé la porte ? T'as rencontré des gens ? T'es en voiture ? Où était ta voiture ? T'as connu dans le quartier ? Il y a un concierge ? Est-ce qu'il y a des traces suspectes dans le studio ? Est-ce que t'as appelé police secours ?
Oh, j'en sais rien, je ne sais plus.
Tu as connu des autres locataires?
Pas du tout. Ah, si, la vieille d'en face, elle guette. Chaque fois que j'arrive, elle entrouvre sa porte.
Donc, hier soir, elle t'a vu entrer et ressortir, avec des taches de sang.
Ben, j'en sais rien. Oui, sûrement.
Tu portais ce costume?
Non, un autre, mon gris. Elodie, elle disait qu'il m'allait bien, alors forcément, quand j'allais la voir...
Ah ouais, c'était une vraie midinette. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as acheté?
Non, Elodie l'aimait bien. Je l'ai planqué dans la cave, en attendant de le faire nettoyer.
Bon, le plus simple, c'est que tu ailles voir les flics et que tu leur racontes tout.
Mais ils vont jamais me croire.
Ah, c'est possible.
Mais je suis innocent.
Bien sûr, je le sais, tu le sais, nous le savons. Mais est-ce que tu penses pouvoir convaincre un jury de ton innocence? Sans compter le juge d'instruction.
Ils vont retrouver le véritable assassin.
Les flics, quand ils tiennent un bon coupable, ils n'en cherchent pas un autre.
Alors je suis foutu.
Non, pas forcément. Tu pourras plaider la folie passagère, le crime passionnel. L'ingrate allait te quitter, elle te préférait un petit genou. Alors forcément, t'as vu rouge. Tu avais ton couteau qui ne te quitte jamais dans ta poche.
Mais j'ai pas de couteau.
Eh bien sûr, tu n'as plus de couteau, mais t'en as eu un.
Mais je n'ai jamais eu de couteau, je t'assure.
Eh si, souviens-toi, ton broule à gueule à manche nacre.
Ah, oui, c'est vrai, mais je l'ai paumé il y a si longtemps. Et... Mais je crois même que c'est toi qui me l'avais confisqué un jour.
Ah, je m'en souviens plus.
Ah, je suis dans la merde.
Je vais passer un coup de fil et essayer de t'arranger le coup. J'ai encore plein d'amis dans la police.
Merci, Jeannot.
Jean s'éloigne à l'autre bout de la salle pour téléphoner. Bernard en profite pour héler la serveuse et lui réclamer un autre grand verre de rouge. Jean atteint la table, en même temps que la jeune fille.
Et pour vous, monsieur, la même chose?
Non, merci, gracieux enfant. J'ai besoin de garder toute ma lucidité.
La jeune fille retourne vers le bar, suivie par deux perdus. Les deux hommes reprennent leur face à face.
C'est arrangé. Un ancien collègue va arriver. Le commissariat est juste à côté. Je lui ai brossé les grandes lignes de ton affaire. C'est un gars compréhensif. Ça devrait bien se passer. Il est prêt à croire au coup de folie.
Mais je suis innocent.
Cousin, sois pas lourd. C'est ton unique chance.
Je suis innocent.
Allez, cousin.
Une voiture où clignote un gyrophare se gare devant le perron. Un policier en tenue et un autre en civil se placent de chaque côté de la porte.
Allez, cousin, c'est le moment. Un peu de courage.
Bernard vide son verre. Jean lui tend sa veste et la défroisse d'un geste rapide de la main. Bernard enfile le vêtement et se dirige d'un pas mal assuré vers le bar. Il porte la main à sa poche, mais Jean arrête son geste.
Laisse, c'est pour moi.
Jean pose un gros billet sur le zinc devant la frêle Arlette, étonnée.
Tenez, jeune demoiselle, vous êtes si délicieuse. Gardez tout.
Bernard a atteint la porte. Il hésite. Le policier en civil entre, suivi comme son ombre par le flic en tenue. Jean rejoint son cousin, le serre contre lui et murmure à son oreille.
Tu sais ce qu'elle a dit avant de mourir? Ça va faire beaucoup de peine à mon gros toutou, mon Saint-Bernard. Quelle idiote.
Mais pourquoi?
Avance, cousin. Faites gaffe, collègue, je crois qu'il a un couteau dans sa poche.
Mais Jeannot, pourquoi?
Jean se retourne vers le bar et envoie un petit baiser du bout des doigts à Arlette, qui le lui rend en souriant.
Parce que dans la famille, c'est moi le séducteur, nanar.
C'était Les Cousins, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec pour ordre d'entrée en onde, La Résistante, Christine Léninger, Jean Charles Hansen, Bernard Yves Sartier et Arlette Ariel Christophe. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, vous pouvez reprendre vos esprits. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, même onde, même heure, pour une nouvelle histoire. En attendant, vous pourrez retrouver cette émission en podcast très prochainement sur notre site www.rcn-radio.org. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine édition des Trois Coups.